Vous pouvez vous asseoir. Nous avons quelques annonces pour vous. Premièrement, si vous êtes nouveau, bienvenue à nouveau. Vous pouvez trouver un code QR devant vous sur les chaises. Vous pouvez le scanner pour prendre vos prochains pas. Que ce soit parler avec un pasteur, parler du baptême ou se connecter avec un groupe communautaire, vous pouvez le faire à travers ce code QR. Donc, je vous invite à le scanner. Ensuite, dimanche prochain, le 13 avril, nous allons, juste après le culte, manger ensemble. On vous invite à apporter quelque chose et vous pouvez aller parler à Éléonore qui est assise juste là pour lui dire ce que vous allez apporter. Comme ça, on est sûr d'avoir assez pour tout le monde. Ensuite, le 18 avril à 18h30, nous allons nous réunir ici pour célébrer le Vendredi Saint. On va célébrer ce que Jésus a fait sur la croix ensemble. On aura la louange ensemble, le culte anglophone et francophone, et puis des messages séparés. Nous allons avoir notre message sur la pièce à côté, dans le hub. Ensuite, Pâques approche, c'est le 20 avril, c'est très proche, et nous voulons que vous invitez des gens ce jour-là. On va partager l'évangile et on veut que les gens de Bruxelles, vos amis, vos familles, entendre l'évangile. Donc, invitez-les. Nous avons quelques initiatives pour que vous puissiez les inviter. Premièrement, notre initiative « Tu invites qui ?». Si vous êtes allé dans la pièce à côté, vous avez vu peut-être sur le mur un grand panneau noir où on met dessus des autocollants. Sur ces autocollants, vous pouvez écrire une personne que vous voulez inviter. Comme ça, on peut prier pour cette personne. Que Dieu puisse travailler dans son cœur et qu'elle puisse venir entendre l'évangile et qu'elle soit changée par Jésus. Notre deuxième initiative, c'est des invitations pour Pâques. Elles sont dans la boîte juste là, sur la table. Je vais vous inviter maintenant, juste après la dernière annonce, de vous lever, de prendre une invitation, donner à vos amis, donner à vos familles pour les inviter à Pâques. Voilà, nous allons faire cela maintenant. Vous pouvez le lever, dites un petit bonjour aux personnes à côté de vous. Les enfants, vous pouvez aller au Kids Club. Et oui, n'oubliez pas les invitations, c'est très important. Je vous invite à reprendre vos places. Voilà, si vous avez déjà terminé vos études ou si vous êtes encore à l'école, je pense que vous allez un peu comprendre ce que je vais vous expliquer maintenant. Imaginez que vous êtes, c'est lundi matin, voilà, il n'y a pas d'interro cette semaine normalement, et vous êtes en classe, vous êtes prêt. Et puis soudain, le professeur entre dans la pièce et il vous dit « Asseyez-vous, sortez un bic, interro, surprise !» Et il y a de la panique instantanée. Certains élèves sont prêts, ils sortent immédiatement le crayon, ils se redressent et ils sont prêts. Voilà, ils ont, la semaine passée, ils ont écouté, ils ont participé, ils ont fait leurs devoirs. Et voilà, même si c'est une surprise, ils savent qu'ils vont se débrouiller. Mais il y a les autres élèves, ça n'a jamais été moi, non? Les têtes s'abaissent, les yeux s'ouvrent. Et peut-être vous chuchotez à la personne à côté de vous, quel test, quel test. Voilà, eux, ils se sont laissés un peu emporter. Ils n'ont pas vraiment fait attention semaine après semaine. Ils n'ont pas étudié à la maison. Ils n'ont pas révisé. Ils se sont dit que, voilà, je vais étudier après. Je dois pas... Cette semaine, j'ai autre chose à faire. Je vais aller m'amuser avec mes amis. Le test, ça va venir après de toute façon. Mais c'est trop tard maintenant. C'est trop tard pour se préparer. Le test est devant eux. Vous voyez, une chose qui est bien avec un test surprise, c'est qu'il ne crée pas vos connaissances, il les révèle. Il montre si vous avez prêté attention semaine après semaine, si vous avez fait le travail et vous êtes préparé dans le calme quand personne ne vous regardait. La persécution est un peu comme ça. Elle ne se présente pas toujours sur la forme à laquelle vous attendez et elle ne se présente pas toujours au moment où vous l'attendiez. Et peut-être quand elle arrive, c'est une surprise et vous ne savez pas exactement quoi faire. Vous êtes figé, vous avez peur, vous ne savez pas quoi répondre. Comment répondre à la persécution? Voilà, aujourd'hui, nous allons examiner Jean 15, où Jésus prépare ses disciples pour la persécution qu'ils vont affronter. Notre objectif principal aujourd'hui, dans ce passage, c'est de voir comment nous pouvons être des bons témoins de Jésus lorsqu'on fait face à la persécution et la haine du monde. Nous allons lire dans Jean 15, verset 18, jusqu'à chapitre 16, verset 4. Je vais vous demander de vous lever pour qu'on puisse lire la parole. Chapitre 15, verset 18. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Mais vous n'êtes pas du monde. Je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre a fait, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vus et ils nous ont détestés. Moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. C'est la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, dans ce passage, Jésus prépare ses disciples à faire face à la persécution et la haine pour l'avoir suivi. Mais que leur dit-il? Il ne leur donne pas des conseils pour qu'ils puissent éviter la persécution. Il leur dit pas qu'ils doivent, ce qu'ils doivent dire pour tenter d'apaiser ceux qui les haïssent. Non, au lieu de cela, il dit « Ne soyez pas surpris quand le monde vous haïra. » Ne soyez pas surpris. C'est notre premier point aujourd'hui. Souvenez-vous, dit-il, ils m'ont haï en premier. Ils m'ont persécuté en premier. Si vous me suivez, ils vous haïront et ils vous persécuteront aussi. Il continue et il nous dit « Pourquoi ?» Le monde le hait, lui et puis nous aussi. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose de mauvais. Si le monde nous hait parce qu'on est injuste ou on est méchant avec les gens, c'est bien qu'ils nous haïssent. Mais ce n'est pas de ce genre de hait qu'on parle ici. Ici, les gens haient Jésus, ben, on va voir pourquoi. Dans la Genèse, nous voyons l'humanité rejeter Dieu et sa parole. Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu et ils ont écouté le serpent. Tout au long de l'Ancien Testament, après, nous voyons à maintes reprises comme les gens continuent à désobéir à Dieu. Ils choisissent à louer toute autre chose que de louer Dieu. Et donc, ils le rejettent. Même si l'humanité rejette Dieu, lui, il a un plan pour les sauver. Il envoie son fils Jésus dans le monde pour réunir les gens à lui. Il y a quelques semaines, nous avons vu la vérité que Jésus est Dieu. Ainsi, lorsque Jésus est entré dans le monde, Dieu lui-même est entré dans ce monde. On lit que Jésus est venu dans ce monde. Dieu lui-même est venu. Il a parlé au monde. Il a fait des œuvres que personne d'autre n'avait jamais fait. Et le monde le haïssait toujours. La vérité est que nous sommes si pécheurs que nous ne pourrions jamais nous tourner vers Dieu par nous-mêmes. C'est pourquoi le monde déteste Jésus. Et nous déteste aussi. Jésus est saint et il est parfait. Et ce monde est pécheur et brisé. Dieu est tellement saint que le monde ne peut jamais l'aimer sans que Dieu intervienne. Ce n'est que par l'œuvre de Dieu dans nos cœurs que nous pouvons le voir tel qu'il est et vraiment placer notre foi en lui. Ce passage nous dit que Jésus nous a choisis du milieu du monde. En plaçant notre foi en son œuvre sur la croix, nous ne sommes plus de ce monde. Il nous a libérés, il nous a choisis pour être mis à part pour sa gloire et pour accomplir ses plans. Nous sommes maintenant ses disciples et à ce titre, en étant des disciples, nous devenons des imitateurs de Jésus. Et donc, s'ils haïssent Jésus, ils vont haïr aussi ceux qui lui ressemblent. C'est pour ça que le monde haït Jésus, parce qu'il est tellement différent de ce monde. Et c'est pour ça qu'ils vont nous haïr, ils vont nous persécuter aussi. Suivre véritablement le Christ dans ce monde conduira d'une manière ou d'une autre à la persécution et à la haine. Dans certaines régions du monde, on voit que les chrétiens sont battus, ils sont assassinés à cause de leur foi en Christ. Dans d'autres régions, comme ici, la situation est différente. Ici, peut-être que c'est vos copains à l'école qui se moquent de vous, ou au bureau, que peut-être que vous avez peur de partager Jésus à cause de ce que les gens vont dire autour de vous. Peut-être que c'est que votre famille s'éloigne de vous à cause de vos valeurs. Frères et sœurs, comme Jésus l'a dit, la persécution va arriver et ne soyez pas surpris lorsque cela se produit. Cependant, Jésus ne dit pas seulement aux disciples de ne pas s'étonner. Je crois qu'il veut aussi qu'ils se souviennent que le monde l'a haï en premier, afin qu'ils sachent qu'ils ne sont pas les seuls lorsqu'ils sont persécutés. Nous adorons un Dieu qui aime son peuple, qui se soucie de son peuple. La première personne à avoir été rejetée, c'est Dieu lui-même. Il a été le plus haï, et lui sans raison. Il est descendu sur terre pour sauver le monde, et le monde l'a haï. Ils l'ont persécuté, ils l'ont tué sur une croix. Il a connu et il connaît la haine et la persécution plus que n'importe d'autre être humain. Ainsi, lorsque le monde vous hait et il vous haïsse et il vous persécute, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous avez avec vous un Dieu qui sait exactement ce qui se passe. Quoi que vous affronterez, en son nom, vous n'êtes pas seul. Il est là avec vous. Lisons de nouveau les versets 26 et 27. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part de mon Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Il continue à préparer ses disciples en leur disant qu'ils témoigneront de lui au monde. Il leur dit donc qu'ils vont être haïs et ils vont être persécutés à cause de son nom, et il leur dit de témoigner encore plus de lui. C'est pas intéressant. Face à la persécution, il ne leur dit pas de se taire ou de se cacher, cacher leur foi. Garde ta foi pour toi seul, comme un truc personnel à toi. Non, il leur dit de partager lui-même avec le monde. Partager Jésus avec le monde. Mais remarquez aussi, il ne dit pas « assurez-vous à ce moment-là de continuer à témoigner de moi ». Non, il dit « vous témoignerez ». Je crois qu'il y a deux raisons à cela que nous pouvons voir dans ce texte. Tout d'abord, Jésus parle d'une aide qui nous enverra du Père. Il parle ici du Saint-Esprit. Nous parlerons plus du Saint-Esprit la semaine prochaine, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais souvenez-vous de ceci. Dieu ne nous laisse pas affronter la persécution et il ne nous laisse pas accomplir sa mission qu'il nous donne tout seul. Non, Dieu nous a choisis hors de ce monde et il nous a confié une mission qui est d'être ses témoins dans ce monde. Mais il ne se contente pas de juste nous donner une mission et puis de nous laisser faire par nos propres forces. Non, le Saint-Esprit est Dieu et donc lui-même, Dieu lui-même nous donne la force pour pouvoir témoigner de lui et pouvoir avoir de la force lorsqu'on est persécuté. On va encore parler plus de Saint-Esprit la semaine prochaine. La deuxième raison pour laquelle ils témoigneront, c'est qu'ils étaient avec lui depuis le début. Imaginez un peu un groupe de nouvelles recrues qui est entré dans une formation militaire. Elles n'ont pas d'expérience, elles ne sont pas sûres d'elles, elles ne savent pas vraiment quoi faire. Mais avec le temps, elles sont façonnées par un commandant. Un homme qui ne se contente pas juste d'aboyer des ordres, leur dire quoi faire. Non, c'est un homme qui les aime, qui dirige avec clarté, détermination et cohérence. Un commandant qui se soucie d'eux. Chaque jour, ces recrues font des exercices. Ils étudient les stratégies du commandant. Ils apprennent à entendre sa voix. Jour après jour, ils apprennent les méthodes du commandant. Et ses ordres deviennent familiers. Son leadership devient une seconde nature pour eux. Puis, la guerre éclate. Ils ne sont plus dans la sécurité du terrain d'entraînement. Ils sont sur le champ de bataille. Il y a de la panique partout. Il y a des balles qui volent de partout. Et à ce moment-là, une chose devient évidente. Ceux qui ont été avec le commandant depuis le début, ils sont prêts. Ils ne se figent pas, ils n'hésitent pas, ils agissent avec confiance. Même lorsqu'ils ne peuvent plus voir leur commandant, ils peuvent entendre sa voix dans leur tête, dans leur cœur. Ils sont prêts parce qu'ils ont passé tellement de temps avec lui. Son leadership est inscrit dans leur instinct. Mais ceux qui n'ont jamais prêté attention au commandant, qui étaient distraits, qui résistaient, qui se sont dit « la guerre ne va jamais arriver », eux, ils paniquent, ils ne savent pas quoi faire. Et ce n'est pas là, sur le champ de bataille, qu'ils vont apprendre quoi faire. Vous voyez, le champ de bataille révèle simplement avec qui ils ont été tout ce temps. Le fait que les chrétiens puissent être persécutés et puissent continuer à témoigner de Dieu, même si cela leur coûte leur vie, est quelque chose de surnaturel. Ils peuvent faire cela parce qu'ils ont vraiment été avec le Christ. Ils l'aiment tellement qu'ils sont prêts à renoncer à tout pour lui, avant de le renier. Rendre témoignage du Christ au monde, qui vous haït, est le fruit de la compréhension de l'amour que Dieu a pour vous, que Christ a pour vous. C'est le résultat de l'œuvre de Saint-Esprit en vous. Nous devons être du coup façonnés par lui. Lorsque la pression s'exerce sur nous, ce qui ressort de nous, c'est Christ. Si votre foi n'a jamais été une priorité dans votre vie et que vous n'avez jamais pris le temps de connaître Dieu, lorsque les choses deviennent difficiles et que le monde vous met de la pression, peu importe si vous avez pu tromper tous les gens autour de vous, la vérité va être révélée. Pour être un bon témoin face à la persécution, nous devons connaître les paroles de Dieu. Nous devons le connaître. Nous devons demeurer en lui. Plus concrètement, nous passons du temps avec lui chaque jour. Nous faisons de notre mieux pour vivre selon sa parole. Nous plaçons Jésus au premier rang de notre vie. Donc lisez la parole, passez du temps dans sa prière, passez du temps avec son peuple. Examinez votre vie, regardez où est-ce que vous pourriez mieux l'obéir, le servir. Si vous vous remplissez de ce qui est saint, vous serez mieux préparé lorsque la persécution viendra. Enfin, chapitre 16, nous allons relire. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vont faire mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Enfin, Jésus dit à ses disciples de ne pas se détourner de lui et de se souvenir de ce qu'il leur a dit. Suivre le Christ dans ce monde n'est pas facile. Le moment viendra où notre foi sera mise à l'épreuve. La vie de quelqu'un qui suit Jésus sera très différente de celle des gens qui ne le suivent pas. Nos croyances sont très différentes de celles du monde. Regardez ce que Jésus dit, les mots qu'il utilise au début de ce passage. Il parle de personnes qui sont de ce monde et des personnes qui ne sont pas de ce monde. La différence entre un disciple de Christ et quelqu'un qui ne l'est pas n'est pas simplement superficielle. Ils appartiennent à deux mondes complètement différents. Ce que nous disons et faisons entrera à un moment donné en conflit avec ce que le monde dit et comment eux, ils agissent. Et le monde n'aime pas ça. Ils vont vous persécuter et ils vont vous haïr d'une manière ou d'une autre. S'ils ne le font pas, cela, c'est peut-être un moment pour vous de réfléchir à votre vie. Est-ce que vous suivez vraiment Jésus? Est-ce que vous imitez Jésus vraiment? On continue, même Jésus il dit aussi que l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. Cela vous rappelle quelque chose? Il y a des milliers de chrétiens à travers le monde qui sont persécutés et qui sont même tués par l'oppression islamique. Ces gens croient qu'en tuant des chrétiens, ils rendent service à leur Dieu. Et ce n'est pas les seuls. Ces choses font partie intégrante de ce monde que nous vivons aujourd'hui. Il y a plus de 380 millions de chrétiens qui souffrent de niveaux élevés de persécution ou de discrimination à cause de leur foi. Nous avons la chance de vivre dans un pays où on ne va pas mourir à cause de notre foi. Mais même ici en Belgique, nous devons rester fermes pour ne pas nous laisser abattre. Comment est-ce que nous sommes alors des témoins de Jésus ici en Belgique face à la persécution? N'ayez pas peur de partager Jésus dans votre lieu de travail, à l'école. Partagez-le. Ne vous cachez pas, soyez un témoin de Christ pour eux. Rappelez-vous que, comme le dit Jésus, ils vous haïssent et ils vous persécutent parce qu'ils ne le connaissent pas. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Le faire connaître au monde. Lorsque la persécution survient, ne soyez pas surpris. Souvenez-vous ce que Christ a dit. Il a dit que cela allait arriver et que vous souffrez pour lui. Et à la fin, vous allez aussi régner avec lui. Souvenez-vous aussi qu'il est là dans vos moments de persécution ou quand le monde vous hait et il comprend ce que vous traversez. Il peut compatir à votre situation. Et enfin, tenez bon et soyez ses témoins. Ne cachez pas votre foi. Partagez Jésus avec le monde. Soyez des témoins fidèles lorsque vous êtes confrontés à la persécution. Et n'attendez pas non plus le dernier moment. N'attendez pas que le prof vienne avec son test surprise. Soyez prêts. Comme je l'ai dit, plutôt, il y a de nombreux de chrétiens dans le monde aujourd'hui qui sont persécutés et qui sont haïs par le monde, même au point d'être mis à mort. Ce sont nos frères et nos sœurs en Christ qui sont persécutés, ridiculisés et tués au nom du Christ. Et donc, je voudrais maintenant, à la fin du sermon, que nous prenions un moment pour prier ensemble pour ces personnes. Il y aura des points à l'écran sur lesquels vous pouvez vous référer pour guider vos prières. Je vais vous demander de former des groupes d'environ 5 personnes et de prier pour ces choses-là. Prier pour nos frères et sœurs qui font face à la persécution et qui sont tués pour leur foi. Voilà, je vous invite maintenant de faire cela. Faites des petits groupes. Vous pouvez bouger les chaises, c'est pas grave.